Bon, on va commencer avec un peu trop de temps. Alors, on est moins nombreux que d'habitude. Bon, la montagne n'a pas fait ce qu'il fallait comme d'habitude. Enfin, d'habitude, elle nous met un bon empire. En fait, bon, non. C'est comme ça. Donc, Olivier Le Troquer, qui est l'intervenant, et puis Jean-Laurent Sédi, puisqu'il va se présenter lui-même. Alors, il va faire une courte intervention de 10 à 15 minutes. Il va dire que s'il dépensait, il fallait que je donne un petit coup de pied dans les jambes. Ensuite, vous prendrez la parole et puis ça sera un débat interactif. Voilà. Alors, merci d'être venu, hein, quand même. Et puis, je lui passe tout de suite la parole. Peut-être avec celui-là, là, non ?
Ou l'autre, il y a un fil, là. C'est bon ? Hein ? L'autre aussi,
oui, oui, parce que c'est pas pour la salle.
J'ai intitulé ma petite présentation.
Prends le micro, s'il te plaît, parce que c'est filmé.
J'ai intitulé ma petite présentation, ça devrait vous rappeler quelque chose. Du présent, faisons table pleine. Parce que, en même temps, votre invitation, c'est la 5e République est à l'agonie, faisons autre chose. Et en même temps, d'autre part, on sait tous, par notre histoire et en même temps l'histoire, j'ai envie de dire mondiale, que la table rase, ça a pu donner aussi des choses problématiques. Donc c'est pour ça que je préférais ça, prendre ça dans l'autre sens. Du présent, faisons table pleine. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut essayer de partager les choses, sous-titré, comme dans le papier que je vous avais envoyé, « Question pour une nouvelle République ». Alors, on pourrait se demander, et je me suis demandé d'ailleurs, si vraiment je vous étais utile et nécessaire, parce que la question que vous vous posez, que je me pose aussi, moi, évidemment, c'est une question du présent et de l'avenir. C'est pas une question du passé. Je vais pas vous faire une conférence sur les 5 républiques précédentes. Vous les résumez, vous en savez en partie autant que moi. Il y a des choses que vous ne savez pas, mais ce serait intéressant, mais c'est pas l'objet. Donc, à quoi ça peut bien servir un historien et un enseignant d'histoire, puisque c'est mon cas, à venir parler de ça? Alors, je me suis posé la question et j'ai essayé d'y répondre. Alors, en me présentant, sans, je ne vais pas raconter ma vie, évidemment, c'est pas le sujet, mais pourquoi ça me concerne moi? Et puis, du coup, un mot ou deux sur à quoi ça peut servir un historien à penser l'avenir. Et puis, je terminerai en vous proposant, j'ai rassemblé les questions que je vous ai envoyées en 3 questions à la fois simples et évidemment fondamentales. Est-ce que la République, c'est la réponse à toutes nos questions et à tous nos problèmes, ou pas? C'est pas sûr. Mm-hmm. Voilà. D'autre part, est-ce qu'une République nationale ou pas, est-ce que c'est encore possible? Donc c'est nous qui répondons collectivement, vous et moi, et tous ensemble. Et puis la dernière chose, ce serait, est-ce qu'il est possible de faire une République qui soit à la fois l'unité et la multiplicité? Parce que finalement, pour moi, dans ce que je vis et dans ce à quoi je suis confronté, comme vous, pour moi, c'est la chose la plus difficile, en fait. La chose avec laquelle il faut faire. Alors, juste un mot très rapide sur mon trajet personnel. Je l'ai indiqué dans la petite bio que Pierre Goldberg m'avait demandé. Je suis d'une famille, j'ai été militant syndical et puis engagé du côté d'attaque, et puis j'ai failli adhérer au parti de gauche pour me situer, sans le faire pour des raisons que je pourrais évoquer si vous le souhaitez plus tard. Et en même temps, il y a une mémoire familiale chez moi qui remonte à 1900, c'est pas rien. Et cette mémoire familiale, c'est celle d'un arrière-grand-père menuisier qui participe à la création d'une section SFIO en 1906. Ce qui se transmet par des bribes de bouche, je suis incapable de vous en dire beaucoup plus de choses, mais ça se transmet. Donc ça transmet, j'ai envie de dire, une tradition politique qui est, je pense, que celle que vous partagez, et des questions dans le rapport à la place du peuple, dans le rapport à la politique, qu'est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle est marginale, comment est-ce qu'elle peut être non marginale. En regardant cette carte SFIO, il se trouve qu'elle a été conservée, et qu'après la mort de mon père, ben, la sa sœur me l'a donné. Et j'ai été frappé par un petit détail qui, je trouve, nous concerne aujourd'hui. Vous connaissez évidemment le slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » qui termine le manifeste du Parti communiste. Or là, sur le tampon de la SFI en 1906, puisque c'est le tampon national, eh bien, c'est presque la même formule avec un petit changement, et qui n'est pas mince, « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ». C'est-à-dire que le « vous » est retourné en « nous », et je trouve que ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que les socialistes de l'époque, qui étaient de toutes les tendances socialistes, dont celles qui seront le communisme, dont d'autres qui étaient plutôt anarchisantes, d'autres, etc., une grande diversité, ils avaient quand même l'idée que c'était un « nous » collectif qu'il s'agissait de faire travailler, et je trouve que c'est une belle chose, cette réappropriation. Voilà. Sinon, deuxième petite chose à propos de ce que j'ai de mon rapport à l'histoire, j'appartiens, comme Michel Rieux-Sarcey qui est venu ici, au comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, le CVUH, fondé en 2005 par trois historiens, Michel Rieux-Sarcey, Gérard Noiriel, si ça vous dit peut-être quelque chose, un historien d'immigration qui a travaillé d'abord sur les immigrés à Longwy. Réfléchi sur est-ce que l'immigration peut constituer un creuset. Il a réfléchi là-dessus, il a réfléchi aussi sur le rapport à l'importance des papiers dans la vie politique, etc. Et puis Nicolas Felstadt, qui est quelqu'un qui fait l'histoire du Moyen-Âge et aussi l'histoire de la guerre de 14, voilà, en s'intéressant de près à la vie des soldats. Donc en étant membre de cette association, on a chercher à beaucoup travailler dans l'idée du partage du savoir. Là, en ce moment, on fait des ateliers qu'on a intitulés « Les mots du politique » dans un café associatif qui est à Ménilmontant, si vous voyez où ça se perche. Le lieu dit, où il y a beaucoup de réunions, de rencontres, d'émissions de radio, la Bastille de temps en temps émet de là. Il y a tous les ans un salon du livre politique. Il y a plein de choses qui s'y passent. Et là, on s'est dit qu'avec le contexte électoral et la déformation des mots, il fallait travailler sur ça. Et donc, on invite les gens qui le souhaitent à venir discuter avec nous. On est toujours deux ou trois et on associe des couples de mots. C'est-à-dire, par exemple, démocratie, liberté, civilisation, barbarie, souveraineté, souverainisme, etc. Pour réfléchir à cet emploi des mots en voyant comment ces mots travaillent en couple d'opposition. C'est un peu ça que je vous ai suggéré dans les questions que je donnais, c'est-à-dire comment essayer de travailler avec les jeux d'opposition. Maintenant, si je reviens à ce qu'est être un historien, en un mot, dans le rapport à l'avenir, il y a un étudiant qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, en disant, mais monsieur... Il y en a qui disaient, le passé, ça m'ennuie, je vais arrêter l'étude d'histoire, il y a trop de dates, je vais faire de la géographie, parce que c'est une chose qu'on entend souvent, et je le comprends très bien. Et il y en a du coup un autre qui m'a dit, mais monsieur, est-ce qu'un historien peut s'intéresser à l'avenir? Alors oui, ça peut prendre différentes formes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'histoire contrefactuelle. Les gens qui essaient d'imaginer un avenir tel qu'il aurait pu être autrement. J'ai un ami qui fait ça, qui a travaillé sur la commune de Paris, Quentin de Lermoz, et qui a fait un livre là-dessus il n'y a pas longtemps, Histoire contrefactuelle. Il y a aussi des gens qui font de l'histoire prospective, c'est-à-dire qu'on prolonge les lignes du présent, et puis on les prolonge et du passé, on les prolonge vers l'avenir, pour voir si. En utilisant beaucoup de chiffres. Et puis il y a une autre façon de travailler entre le présent et l'avenir. Et le passé, c'est ce que fait Michel Rieux-Sarcey, aussi une amie qui s'appelle Sophie Vanisch, qui a beaucoup travaillé sur la Révolution française, et j'ai beaucoup travaillé avec elle deux. C'est comment essayer de sauver. J'ai plus de son, si.
C'est pas terrible. Peut-être prendre l'autre micro. Dans l'autre micro.
Comment est-ce que les expériences perdues du passé, dont les expériences, on va dire par exemple des groupements d'ouvriers au XIXe siècle, par exemple, qui ont été perdues ou oubliées, comment est-ce qu'on peut les sauver du passé en allant chercher dans les archives pour essayer de s'en servir aujourd'hui? Voilà. Et c'est dans cette perspective que je me situe, et c'est ça qui me semble le plus intéressant pour ce dont on va discuter ce soir. Voilà. Un petit mot à ce sujet, un petit exemple. En fin avril 1871, la commune de Paris est menacée par les Versaillais, qui se rapprochent de plus en plus des murailles, et puis donc il faut sauver la commune, ou il faut essayer de la sauver, parce que la situation militaire est de plus en plus inquiétante, catastrophique, et puis et menace déjà ce qui arrivera après, c'est-à-dire le massacre dans les rues de Paris. Et du coup, l'assemblée des communards discute de savoir s'il faut créer un comité de salut public, comme en 92-93, comme en ont fait des gens de l'extrême droite, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ça en tête, le 13 mai 58, à l'opposé. Et ils en discutent, évidemment, ils ont des tas d'avis différents là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on les voit en discuter, quand on regarde dans le journal officiel de la commune, bon, les séances de la commune sont publiées, et on voit qu'en fait, la question qui se pose, et ils discutent, il y a Courbet, il y a des gens connus, des inconnus, il y a des cordonniers, etc., c'est quel rapport on a avec le passé. Et à chaque fois, il y en a qui disent bah, « on est comme en 92, c'est pareil, ça n'a pas changé ». Il y en a qui disent « non, ça n'a rien à voir, c'est le passé, ce passé-là, il faut l'oublier, on doit être dans le présent, on doit être dans une révolution sociale ou socialiste ». Et d'autres qui disent bah, « moi j'ai établi une relation avec ce passé, puis en même temps, c'est pas comme aujourd'hui ». Et donc j'ai envie de dire que par rapport aux différentes expériences des républiques passées, c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire discuter de la relation qu'on a avec ce passé, de façon libre et ouverte, sans se sentir prisonnier par ce passé, et en même temps, en essayant de ne pas en perdre ce qui peut nous être utile pour réfléchir. Alors donc, c'est quelques points que je vous ai dit tout à l'heure. La République est-elle la réponse à toutes nos questions? Une République nationale, on va dire, est-elle encore souhaitable? Et qu'est-ce que seraient plusieurs républiques en une? Quand on réfléchit à ce qui a été dit et pensé de la République au XIXe siècle, et de la cité, le modèle de l'Antiquité, la cité romaine, la République romaine, ou Athènes, certains ont dit, un libéral, je ne sais pas si vous dites quelque chose, Benjamin Constant, il a fait un texte disant il y a la liberté des anciens et celle des modernes. Alors, celle des anciens, c'était la cité, la collectivité rassemblée, et puis celle des modernes, c'est la vie privée et en gros ce qui est commun, la collectivité, ce qui peut faire république ou démocratie, c'est une partie seulement de la vie publique et puis le reste, c'est la vie privée, c'est l'activité économique, etc. Donc une coupure très nette. Donc en gros, on ne peut rien faire, pas grand-chose de ces exemples anciens. Il y a à l'inverse, j'ai envie de dire, la façon dont a réfléchi la commune de Paris, dans une déclaration adressée à l'ensemble des Français le 19 avril 71, où ils disent qu'à la fois la nation, c'est une unité qu'il faut garder, et en même temps, il faut arriver à la penser comme une fédération. Fédération de communes, fédération de territoires. Et c'est leur façon à eux d'essayer d'associer l'idée du passé, les cités, isolées, séparées, et puis l'idée d'une assemblée plus grande qui permettrait de travailler, de penser et de vivre ensemble. Voilà. Et je dirais, il y a encore une troisième façon de penser ça, c'est les républicains modérés. Un certain Gambetta, ça vous dit quelque chose, évidemment. Gambetta, c'est dire il faut un État fort, donc l'unité. Il faut une autonomie locale, celle des communes, mais qui ne s'occupe que de leurs petites affaires, entre guillemets. Et puis, il y a la vie des entreprises, et Gambetta fait partie des républicains, des fondateurs, entre guillemets, de l'entreprise publique, qui pensent que l'État ne doit pas intervenir dans la vie collective, enfin dans la vie économique, pardon. Voilà, du coup, trois façons d'envisager le rapport au passé, de la République ou de la cité. Et je rajouterais une précaution, qui est que si on peut aujourd'hui penser que la République, c'est malgré tout une réponse nécessaire aux questions qui se posent, à la crise actuelle, il y a quand même quelques petits garde-fous à avoir. Il s'est passé des choses qu'on a appelées, par exemple, les totalitarismes, voilà, où on pensait que l'État, c'était la totalité. Et... si je dis ça, on n'est a priori pas directement menacé en France d'un régime totalitaire, bien sûr. Mais d'une part, il y a quand même quelques candidats, candidates plus précisément, qui ont des arrière-pensées, on va dire. Et puis, lorsque je discute avec des élèves ou des étudiants, certains disent c'est compliqué, la démocratie, je ne sais pas à quoi penser, dont certains qui veulent tenter le concours de sciences politiques. Et qui disent finalement, comment vous dites, monsieur, là, ce mot qui a un mélange de démocratie et dictature, la démocratie, finalement, la démocratie, peut-être que c'est plus simple. Ou peut-être que dans, finalement, Hitler ou Staline, c'était simple. Et ils sont en première, ils sont en terminale. Ça nous dit quelque chose de ce que c'est que la nécessité de penser la question de l'État et des limites du pouvoir de l'État, de la République comme un État. Et si, à l'opposé, si on s'occupe de ce que c'est que l'économie capitaliste dans laquelle on vit, on pourrait très bien parler, avec des guillemets bien sûr, mais de totalitarisme entrepreneurial, il y a quelque chose comme ça. Finalement, on serait censé être des citoyens réduits à l'état de consommateurs et de salariés non autonomes. Il y a quelque chose d'une emprise quasi totale, si on regarde les entreprises comme Foxconn en Chine, qui travaillent à fabriquer les smartphones Samsung ou iPhone, par exemple, qui nous font penser à ce qu'est une emprise totalitaire. Et je voudrais rappeler au passage que Hannah Arendt, qui nous a alerté sur le totalitarisme et qui a été utilisée pendant la guerre froide dans le sens consistant à dire le communisme et le nazisme, c'est pareil, elle avait dans son livre développé toute une partie qu'on a traduit bien plus tard, et sans doute pas par hasard, analysant le colonialisme comme une des sources du totalitarisme, le colonialisme et du coup les empires coloniaux occidentaux. Et donc il y a quelque chose là dont il ne faut pas perdre l'usage et la pertinence. Alors, deuxième petite réflexion, une république à échelle nationale est-elle encore possible? Je vais évoquer rapidement quelques questions à ce sujet. La question du « nous », ce « nous » qui devient justement pas toujours facilement prononçable. Vous avez tous en tête ce slogan d'évocation, de défense de Charlie Hebdo après le massacre. Et ce slogan, c'est non pas « nous sommes Charlie », mais « je suis Charlie ». Il y a quelque chose d'un individu se projetant dans quelque chose qui était pourtant une rédaction tout entière. Autrement dit, on fait disparaître le collectif derrière un nom, au point, vous le savez, que certains élèves disaient, mais ils croyaient que Charlie existait, que c'était une personne, et non pas une collectivité. Et que lorsqu'on montre, ça m'est arrivé de le faire, à des élèves, montrer le... Vous vous souvenez de la fameuse couverture de Harakiri, Balle tragique à Colombelles, bien sûr. Certains sont choqués. Sont choqués parce qu'on ne doit pas dire ça d'un chef de l'État. C'est-à-dire que l'individu exalté comme un chef, on ne doit pas, le désacraliser. Oui. Et donc, je travaille dans une faculté en banlieue. Et je travaille dans un lycée Bordeaux-Billancourt avec des gens qui viennent de toute la Terre, aussi bien du Pakistan, de Chine, que d'Afrique du Nord, de Colombie ou d'ailleurs, et c'est une très bonne chose. Cette question-là du rapport au chef de l'État et au personnage qui serait le chef, c'est bien au-delà de ce qu'on a pu dire sur la question de l'islam ou pas l'islam. De Dieu ou pas de Dieu, c'est une question, je répète, qui est celle de la démocratie tout court. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on en revient au culte du chef? Ça me paraît du coup ce « nous » possible ou pas possible, quelque chose d'extrêmement important. Petit mot sur du coup l'idée de crise, de ce qu'on appelait la crise de la conscience nationale. La conscience nationale, c'était au XIXe siècle, Printemps des peuples, c'est quelque chose de positif. C'est une émancipation collective. Aujourd'hui, la conscience nationale, elle fonctionne comme, de mon point de vue à moi en tout cas, si on compare avec le 19e siècle, comme une sorte de repli défensif, voire xénophobe. Quand on voit la façon dont les identités, qui sont des constructions très récentes, au 19e siècle, c'est là où on a fabriqué beaucoup d'identités ou de mythes identitaires, eh bien ces identités nationales fonctionnent comme des, non pas comme une idée émancipatrice, mais bien comme un repli sur des frontières et sur nous, tel peuple, les Hongrois, etc., par rapport au danger qui est l'afflux des migrants, etc. Or, il me semble qu'il y a en même temps, pour donner quelque chose de plus positif, il m'est souvent arrivé d'avoir des réactions d'élèves ou d'étudiants lorsque on réfléchit sur la Marseillaise, consistant à dire « mais monsieur, on la chante ». Alors, ce que je ne fais pas, mais il y a là quelque chose qui continue à travailler et que je trouve intéressant à interroger. Interroger parce que c'est de leur part pas du tout quelque chose, pour le coup, de repli défensif. Ouais, c'est quelque chose qui, pour eux, est positif. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'ils en oublient la signification émancipatrice, c'est-à-dire que le fameux couplet « Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé » n'est plus compris. C'est-à-dire qu'ils ont envie de le chanter, et en même temps, la formule avec l'inversion de la phrase, et donc le fait que c'est le drapeau de la tyrannie, donc des tyrans, les rois, qui est levé contre nous, la liberté, ce n'est plus du tout compris. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire la phrase et expliquer le sens. Je trouve que c'est très intéressant comme symptôme de, à la fois d'un attachement positif et en même temps du fait que le sens est perdu. Enfin, il est perdu provisoirement, il peut être réveillé. Et je trouve ça intéressant par rapport du coup à la façon dont je suis parti au début de cette formulation de l'international, du passé faisant table rase, que je trouve que l'on peut inverser à partir du présent. Troisième question, est-ce qu'on peut faire une république qui combinerait l'un et le multiple, sans exclure les marges, en articulant les différents, j'ai employé une expression qui fait un peu savante, en arrivant à concevoir des mécanismes de pouvoir et de contre-pouvoir, et en facilitant l'autonomie individuelle et collective, c'est-à-dire arriver à penser ensemble et en même temps en laissant les sujets que nous sommes et les citoyens arriver à penser de façon autonome. Alors, je pourrais développer chacune de ces choses dans le cours de la discussion si vous le souhaitez. Je prendrai juste deux exemples sur l'articulation des différences, c'est-à-dire au lieu de trancher les oppositions, comment essayer de travailler avec. Un exemple qui concerne le rapport à l'économie. Pendant la Commune de Paris, les communards décident que les uniformes qu'il faut fabriquer pour la garde nationale, toutes les gardes nationaux qui meurent au combat, il faut donc fabriquer de nouveaux uniformes. C'était des entreprises privées, bien sûr, et exploitant les femmes à l'époque, avec, comme vous le savez, le salaire des femmes étant encore beaucoup plus inférieur qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, la Commune discute. Et l'idée va être de confier la fabrication des vêtements à des coopératives ouvrières. Alors, on n'est pas encore forcément coopérative, on l'emploie, ça dépend des cas, mais là, c'est le cas. Et les femmes protestent. Elles protestent parce que, du coup, si ce choix est fait, elles se retrouvent au chômage. Et donc, au cœur de l'événement, au cœur de la situation, le projet, comment dire, émancipateur, il se heurte à la réalité de l'exploitation même. Et du coup, comment arriver à concilier les deux choses? Comment arriver? Alors, il tranche, enfin, il est dans l'urgence, comme une forme de jument de Salomon, comme on dit, une partie du marché va être laissée à ces entreprises qui exploitent les femmes, et une autre partie est confiée à ces coopératives ouvrières. Alors, bon, c'est une chose un peu simple, mais je trouve que ça mériterait d'être réfléchi, ça. C'est-à-dire de comment articuler ce qu'est le marché libre, c'est-à-dire féroce, et ce qui est l'économie sociale et coopérative. Je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être posé. Deuxième exemple, en allant vite, la question de la laïcité. Vous savez qu'il y a deux façons de la concevoir, enfin, dit-elle, la laïcité dite ouverte et la laïcité dite ferme ou forte. Voilà, je passe sur les références. Et
Je suis, pour dire les choses, tout à fait en faveur du maintien de la loi interdisant le bal à l'école. Mmh. Hein. Et en même temps, moi qui enseigne à des filles dont certaines sont voilées à l'extérieur, lorsque je passe à l'université, il y a des jeunes femmes voilées dans le public étudiant. Et je fais avec, c'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant de penser ces deux choses et d'expliquer pourquoi, dans un certain contexte, il est important de continuer à interdire le voile et qu'on le maintienne à l'extérieur de l'école primaire et secondaire, et pourquoi, une fois les étudiants devenus majeurs, eh bien, le fait que le voile soit autorisé à l'université est une bonne chose. Et pourtant, c'est une contradiction en soi. Et cette contradiction, elle est en même temps féconde pour essayer de penser un rapport à l'autonomie, je trouve. Alors, vous serez peut-être totalement en désaccord avec moi, dans ce moment l'autre, et ça peut être intéressant de l'être, mais voilà, cette articulation des différences. J'aurais encore un certain nombre d'autres choses à dire, je vais juste terminer par la question des sujets individuels que nous sommes, et du rapport à la collectivité, à l'histoire et à l'État. Je dis ça de façon vague et floue, mais en venant à la gare d'Austerlitz, en attendant le train, je suis rentré pour m'acheter un sandwich et il y avait évidemment sur les tables différents livres à vendre, dont le grand œuvre, entre trois tonnes de guillemets, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la Révolution. Et je me suis dit que je ne vais pas acheter l'ouvrage pour dire les choses, et puis je me suis dit que j'allais l'acheter pour venir. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme symptôme, c'est-à-dire que la façon dont il dit, il se présente comme ayant un projet pour la France, je veux, etc., et puis disant qu'il fallait laisser les sujets, les citoyens beaucoup plus libres, autonomes. Et puis quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que les acteurs, c'est les collectivités, c'est les élus, c'est les jeunes entreprises. Et puis il y a les citoyens. Alors les citoyens, c'est des gens qui doivent servir et non pas subir. Mais servir quand même. C'est-à-dire qu'au cœur de son projet qu'il appelle révolution, il y a quand même cette hiérarchie entre ceux qui font l'histoire, les auteurs de l'histoire, et puis eh bien, nous, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de nom, qui ne sommes pas des auteurs d'histoire, mais qui sommes simplement des gens qui sont au service de l'histoire et au service de quelqu'un qui veut la mener. Et je trouve, je terminerai là-dessus, ça me semble une question fondamentale si on veut réfléchir à notre République, comment faire que les anonymes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de nom d'auteur, ceux qui ne signent pas de livre disant « j'écris moi l'histoire », ceux qui sont simplement le peuple, c'est-à-dire nous, comment est-ce qu'ils peuvent exister collectivement et singulièrement en même temps, au-delà de la signature qui dit « le peuple a voté, le peuple est pour, le peuple est contre à travers le vote ». Et je rappellerai cette formulation que j'aime beaucoup de Michel Rieu-Sarcel, lorsqu'elle, dans son livre sur le procès de la liberté au XIXe siècle, où elle rappelle que la liberté, ce n'est pas simplement le droit à s'exprimer librement, c'est au XIXe siècle pour les ouvriers, et je pense qu'aujourd'hui c'est fondamental, le pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il doit être, à mon avis, rendu possible et individuellement et collectivement, et non pas se retrouver dans la situation qui était celle de la première moitié du XIXe siècle, où finalement, le vote et le pouvoir, c'était les notables. Et j'ai vraiment l'impression que des fois, les choses se répètent de ce point de vue. Je vous remercie de votre attention.
Écoutez, on peut commencer à faire beaucoup de questions.
Faites court.
On y va. Ça peut être un échange, ça peut être entre vous, ça peut être un échange avec l'intervenant. Tout est ouvert.
Oui, je voudrais intervenir sur la première partie de ton propos liminaire. C'est à propos de la liaison entre la connaissance du passé pour pouvoir penser l'avenir. Il y a des éléments qui font que justement, dans les programmes scolaires, dans la connaissance qui est mise dans le grand public, c'est que la mémoire, il y a un tas de choses de la mémoire ouvrière qui sont complètement occultées. Et justement, tu nous diras, puisque tu es prof, mais il me semble que c'est Charles Sylvestre qui disait que maintenant, dans les programmes scolaires, la commune de on arrête en seconde en 1870 et on reprend en première en 1872, c'est-à-dire il n'y a plus la commune de Paris. Bon, voilà. Ensuite, autre occultation de la mémoire ouvrière, c'est 1848. Bon, nous on a eu ici Samuel Hayat qui est venu nous en parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et moi le premier, je confondais 1848 avec 1830. Voilà, alors qu'il y a des choses qu'on ignore complètement, c'est le massacre qu'il y a eu en 1848. Bon, donc ça c'est encore un autre élément qui est inconnu, et je ne sais pas dans les programmes scolaires comment ça se passe, mais bon, enfin dans le grand public, 1848, complètement inconnu. Autre élément qui est complètement inconnu, plus récent, c'est avec le film « La sociale » de Gilles Perret. Bon, on voit que... qui connaît Croizat actuellement? Et... bon, nous on connaît, mais... et un autre élément qui me paraît fondamental, qui est dit dans ce film, c'est que les obsèques d'Ambroise Croizat ont été, comme celles de Victor Hugo, très importantes, où le monde populaire, à ce moment-là, savait, au moment où Croizat est mort, ce qu'il avait fait, quoi. Et ça, c'est complètement perdu actuellement. Et on voit dans le même film que, y compris une fille qui est dans le centre de formation des cadres de la sécurité sociale, d'une part, il n'y a pas de salle dans le centre de formation, il n'y a pas de salle ni d'amphi, ni rien du tout sur Ambroise Croizat, et elle ne sait pas qui c'est. Ben, ça, c'est énorme, quoi. Enfin, donc, ça veut dire qu'il y a un tas d'occultations des choses de la mémoire ouvrière qui sont complètement effacées. Et comment, à partir de là, le monde ouvrier, en définitive, et les gens d'une manière générale, peuvent effectivement penser l'avenir. Voilà.
Moi, je voulais dire que, dans le sens de ce qui vient d'être dit, d'ailleurs, que c'est vrai qu'on est dans une époque où tout est brouillé dans tous les sens, et on a du mal à... Alors pour ceux... J'ai regardé hier soir, effectivement, le débat, comme beaucoup de gens, et j'ai été surpris des commentaires ce matin. Apparemment, c'est les tout petits candidats de rien du tout. Et notamment le seul qui travaille encore en usine, qui a crevé l'écran en disant « Nous, on n'a pas d'immunité ouvrière ». Voilà. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Donc, alors moi, j'ai noté une deuxième chose, quand vous avez dit la conscience nationale aussi. Bon, c'est vrai que des partis de droite se sont emparés de ce truc avec la xénophobie, etc. Mais on peut se poser la question actuellement, tout le monde se rend bien compte, l'Europe, c'est-à-dire que les articles sont très clairs, on n'a pas le droit de la concurrence non faussée, entre autres pour les services publics. Donc c'est écrit en toutes lettres que... les services publics doivent être en concurrence, c'est-à-dire privés. Donc, et on sait très bien que les services publics, c'est la seule possibilité, y compris la sécurité sociale, pour les gens modestes de pouvoir survivre, hein, les transports, etc. Et alors c'est pour ça que, je voulais dire un simple mot là-dessus, le fait que moi j'ai découvert, je vous le dis franchement, parce qu'on est dans le débat, un des candidats en poussière, un petit candidat, François Asselineau, qui dit très clairement, explique complètement qu'on donne énormément d'argent à l'Europe, on n'en retient rien, et que l'Europe, actuellement, a supprimé tous les pouvoirs nationaux. De même que les communes vont disparaître, l'intercommunalité, alors il y aura des fonctionnaires, les régions, les départements pour les régions, et la France, bien sûr, dans l'Europe. Donc cette notion nationale, républicaine, parce que la France est quand même un des seuls pays au monde, laïque, on ne jure pas sur la Bible, donc il y a des valeurs nationales qui font partie du mouvement ouvrier, je dirais aussi, voilà. Donc voilà une question. Alors, moi j'ai récupéré quelques papiers d'Asselineau, ce qu'ils veulent, je leur donnerai, mais je pense que c'est très intéressant, avec des articles précis, de voir que le pays qui a pu être national et réactionnaire peut devenir aussi une notion de liberté et sa destruction, la destruction des libertés. Voilà.
Oui, je ne pense pas que l'époque que nous vivons, sauf le respect que je revois, soit complètement brouillée. À mon avis, elle est très claire. C'est-à-dire qu'il y a un affrontement qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il faudrait qu'il soit, entre ceux, je parle de l'économie, qui dirigent la vie de tout le monde et ceux qui la subissent. Je ne pense pas que ça soit... Alors, c'est brouillé, c'est compliqué, c'est emmêlé, parce qu'il le faut, par les médias qui ne sont pas neutres dans la période qui court. Peuvent-ils l'être? C'est une autre question. Mais ils ne le sont pas. Donc, c'est au contraire une époque très caractéristique qui, pour moi, est d'une grande limpidité. C'est la poursuite de ce qui a été commencé il y a longtemps. Et il n'y a peut-être pas les luttes qui sont nécessaires, il n'y a peut-être pas le projet qui est nécessaire, mais la période est simple, elle n'est pas brouillée, de mon humble point de vue.
Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ou... Alain ?
Moi, je voudrais, en préalable, rappeler l'esprit des rencontres de l'atelier, c'est qu'on ne soutient aucun candidat politique, ni aucun parti politique. C'est clair. En dehors, c'est le problème de chacun. Dans l'association, l'atelier, il n'en est pas question. Donc voilà. Tu nous as parlé du bal tragique à Colombey. Faut pas dire ça d'un président de la République. Bon, en plus, c'était de l'humour. Mais je pense qu'un président de la République, il n'a pas le droit non plus de nous traiter de sans-dames. Donc, faudra mettre de l'eau dans... Hein? Bon. Et alors, cette 5e République, qui est une monarchie présidentielle, hein, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la dictature du prolétariat. Peut-être qu'il fallait employer un autre mot, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est quand même la dictature du fric. C'est pas mieux. Donc, je sors d'un congrès, et il y a des gens qui ont l'esprit un peu... ils cherchent, quoi. Pour imaginer les fortunes des uns et des autres. Le gars, il explique qu'un billet de 50 euros, ça mesure un dixième de millimètre. Donc, 10 billets de 50 euros, ça mesure un millimètre, et 100 billets, ça mesure un centimètre. Et il dit, à votre avis, par exemple, la fortune de Gattaz, elle s'élève à combien de mètres? Alors, personne ne savait. La hauteur de la tour Eiffel. Et celle de Pinault, les billets entassés comme ça, 50 euros, celle de Pinault, 69 km de haut. C'est mieux que de parler de milliards d'euros. Parce que les milliards d'euros, c'est pas ce que c'est. C'est un 1 avec plein de zéros, puis on est complètement des... Si on a quand même, alors si on les met comme ça aussi sur le sol, ça fait de Montluçon à Moulin, la distance. Hein. Avec les virages. Hein. Bon. Donc c'est quand même intéressant ce genre de truc. Voilà. Moi, je voulais parler de ce qu'il y a sur les frontons de nos mairies et de nos administrations, c'est-à-dire égalité, liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est un symbole aujourd'hui, mais ça ne devrait pas être un symbole, ça devrait être la réalité. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, tu as évoqué Poutou, puis d'autres l'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont intouchables, qui se permettent de faire des choses, je pense à Fillon, je pense à Le Pen. Et c'est vrai qu'une pauvre mère de famille qui est toute seule pour élever ses enfants, si elle vole une boîte de sardines dans un supermarché, elle est tout de suite mise en prison. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a bien une justice à deux vitesses. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Gérard, moi j'ai appris, il n'y a pas longtemps, alors donc tu as raison, la commune de Paris, on a fait un truc... Ça fait 2 ans qu'on fait un truc à commenter là-dessus, et puis on continuera de le faire, parce qu'il faut que les gens sachent aussi des choses. Mais moi j'ai appris, parce que je ne le savais pas, qu'en 1947, il y a eu un massacre de 30 000 personnes à Madagascar.
Ah oui.
Et ça, quand est-ce qu'on nous en parle? Alors on fait des procès d'intention à tel ou tel dictateur. Alors il y en a, c'est des vrais dictateurs, il y en a d'autres, il faut peut-être mettre des guillemets. On parle de mort par-ci, par-là, mais ça c'est un génocide. Et c'est la France. Ben, quand même. Voilà, moi je vais dire, enfin je reviendrai peut-être sur les choses. Voilà. J'ai oublié de dire que Pierre Goldberg était excusé parce qu'il avait des contraintes familiales et qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais on peut se penser de lui, hein, il n'y a pas de sauveur suprême. Hein.
Voilà. Tout à fait. Ça sera pas répété.
Si, c'est fou. Il y a d'autres questions où on demande à notre intervenant de répondre.
Non, non, mais c'est pas une question, mais par rapport au massacre de Madagascar, il n'y a pas que ça. Juste après la libération, les anciens résistants, ils se sont engagés pour les guerres d'Indochine. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'on était dans une période soi-disant progressiste, et on a continué sur la lancée de ceux d'avant, quoi. Il y a aussi les massacres en Algérie. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des indigènes de la République, c'est un sacré débat, parce que même dans les... Moi, je suis un militant depuis longtemps, mais moi, c'est des choses qu'on n'a pas apprises du tout dans les histoires, et qu'on ne connaît pas du tout, et qu'on connaît parce qu'on a rencontré d'autres gens qui nous ont parlé. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas son passé, c'est un peu chiant. Et les mouvements de banlieue, justement, avec tous ces jeunes qui sont issus des anciennes colonies, je crois que la vraie gauche n'en préoccupe pas trop, quoi. Du coup, pour construire le futur, le copain tout à l'heure, il parlait du voile. J'étais dirigeant à la FCPE au niveau départemental. Moi, au départ, j'étais par rapport à la laïcité, j'ai pas de problème. Mais moi, je pensais que la laïcité, justement, c'était de tenir compte de toutes ces cultures, et que le voile, ça fait partie d'une culture, et que de refuser ces jeunes filles à l'école de la République, c'était de les envoyer un petit peu dans les écoles privées, peut-être coraniques et tout ça, et que c'était pas... moi, je préférais qu'ils aillent avec le voile à l'école publique que sans voile à l'école privée, comme se fait dans d'autres communautés, quoi. Les écoles juives, les écoles catholiques et tout ça, quoi. Voilà. Et puis, un petit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aussi, moi, je crois que aujourd'hui on voit un petit peu la limite du rôle des partis politiques, quoi. Alors que j'étais militant longtemps d'un parti politique, il y a aujourd'hui des choses qui se passent, notamment des mouvements, disons, qui dépassent un petit peu les partis politiques. On l'a vu avec Nuit Debout, tout ça. Et c'est vrai que les gens, ils ont envie plus de s'impliquer, je crois, aujourd'hui, je crois. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, je crois que la notion de pays, de république, moi, je suis pour, mais moi, je crois qu'il faut qu'on revienne aussi à une gestion du pays beaucoup plus à rendre concrète, quoi. Le rôle des communes, le rôle des départements, à chaque échelon, mais qu'on ait les possibilités d'intervenir. Et serait-ce que les élections, les par rapport aux élus, qu'on puisse... Un élu qui... le cumul des mandats, tous ces problèmes-là, je crois qu'il faut que ça s'arrête. On en voit à la limite, quoi. Et puis, il faut que les élus soient contrôlés. Moi, je crois qu'il faut que la classe ouvrière aussi soit un peu plus représentée. Il faut un statut d'élu, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes ouvrier, vous ne pouvez pas être élu, parce qu'on ne peut pas être au boulot puis à toutes les réunions qui se passent dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une reconstruction complète. Mais il faut tenir aussi compte de ce qui s'est passé avant, quoi. Pour ne pas refaire les conneries, quoi. Les pays, le pouvoir, tout le pouvoir à l'État. Un exemple, le système de Colco, ça privait les gens d'une certaine autonomie. Ça veut dire que quand on n'est plus autonome au niveau du manger, on ne peut pas être autonome au niveau citoyen, quoi. Voilà, entre autres, quoi. Voilà.
On va peut-être laisser répondre Olivier.
Je suis ravi parce que du coup, on va pouvoir aller plus loin dans les échanges. Alors, je vais essayer d'être assez rapide, tout en étant précis. Pour ce qui est de la commune et de 1848 dans les programmes, c'est plus que ça. Le problème, il est plus vaste encore. Puyon, c'est pas que ça s'arrête en 70, ça prend 72. Mm. C'est qu'en fait, en second, on s'arrête en 1850-51. Mm. Et qu'en première, alors évidemment, ça dépend des filières. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, il faut regarder à chaque fois, mais c'est que en première, ça reprend en 1880. Et ça, c'est pas par hasard, c'est l'idée que se sont fait les historiens de Sciences Po de la République et de ce qu'ils ont appelé le modèle républicain. Le modèle républicain, c'est le modèle de la République, de la Troisième République, une fois que les crises sont passées. Donc, où l'ascenseur social est censé marcher, où tout le monde est censé avoir adhéré à la République, mais la République libérale. Voilà. Donc, tout ce qui est avant, c'est la pagaille, c'est compliqué, c'est confus, c'est la République provisoire, c'est etc., etc. Donc, on écarte. Alors après, bah, ça dépend des enseignants. En ce qui me concerne, je fais le choix, moi, d'en parler, et personne ne me l'interdit. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que je prenne sur le reste du programme. Mmh. C'est une question de temps, c'est une question de choix, en fait. 1848, on le traite à la fin de l'année. Donc, on a souvent, les gens n'ont pas le temps, tout simplement. Parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire que on va traiter, du coup, on va faire une chronologie rapide à la fin de la seconde pour dire qu'on l'a fait. Mais, alors, du coup, cette année, comme l'année dernière, je n'avais pas eu le temps, j'avais les mêmes élèves en première, j'ai décidé de faire le contraire. C'est-à-dire que, enfin, faire le contraire. Je n'avais pas eu le temps, du coup, j'ai repris au début de la première, j'ai fait quelque chose de chronologique au début sur 1815-1851, et j'ai traité la question de la Seconde République, j'ai parlé de juin 48, et j'ai évoqué, parce que du coup, après pour faire rebondir sur la question de la nation, la République, les ouvriers, etc., il faut quand même se rappeler que la République démocratique sociale du 19e siècle, c'est le drapeau rouge. Autrement dit, la nation, c'est pas une évidence. L'unité de la nation, c'est pas une évidence, c'est un conflit. Et qu'il y a conflit sur ce que c'est que la représentation de la nation, sur le fait qu'on met un drapeau de telle et telle couleur, et que c'est pas du tout une évidence d'avoir un symbole unique. Parce que le symbole unique, il dit qu'on se réunit, mais il dit aussi qu'on est face du conflit. Et c'est pas par hasard si effectivement, à la fois, on parle plus de la commune, on peut en parler, mais elle est effectivement esquivée. Et qu'en même temps, du coup, on fait comme si dans l'enseignement des valeurs républicaines, quand on regarde les manuels, dans l'enseignement des savoirs républicains, il n'y en a jamais eu qu'un seul. Il n'y a jamais eu que la Marseillaise. Il n'y a jamais eu qu'une façon de représenter Marianne. Il n'y en a pas plusieurs. Et c'est déjà ça, une tâche importante, que de faire comprendre aux élèves et à des étudiants, que non, ce n'est pas évident. Marianne n'est pas une seule et même chose. Il y en a plusieurs façons de la représenter. Et ces différentes façons, elles disent du conflit social. Elles disent un rapport différent à la République. On pourra discuter, j'espère qu'on le fera, de la question de la souveraineté, de ce que c'est, etc., et de est-ce que c'est possible à l'échelle européenne, souhaitable ou pas. Voilà, vous avez certainement, et moi aussi je me sens partagé là-dessus, ça demande d'être réfléchi. Mais en tout cas, penser que du coup les valeurs ouvrières sont identiques aux valeurs de la nation et que c'est la même chose, c'est faux, historiquement parlant. C'est complètement faux. Ça a été tout un résultat, un ensemble de luttes qui ont fait que l'État monarchiste d'abord, puis impérial, puis républicain, a accepté d'intégrer dans ses lois un peu de l'histoire ouvrière et de l'histoire du conflit. Et en escamotant en même temps d'autres choses. Donc la République comme unité, comme État, n'est pas du tout l'équivalent de l'histoire ouvrière. Elle est plutôt une façon, elle a plutôt été souvent une façon d'escaboter, pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, la marche du 30 mai 68 sur les Champs-Élysées, le million de gens qui défilent pour dire « De Gaulle, on est là », ils sont bien nationaux. Ils ne sont pas très, très ouvriers, hein, c'est pas qu'on puisse dire. C'est, si on ne s'en souvient plus, mais c'est la première manifestation d'un certain Sarkozy. Donc voilà, et il a bien été question, il y a quelques décennies encore, d'une internationale. L'internationale, qu'est-ce que c'est, sinon une version internationale de la Marseillaise. Donc si on, pour moi, si on s'arrête à penser la République à l'échelle de la nation, on perd énormément de choses. Ça ne veut pas dire supprimer la nation, ça ne veut pas dire oublier le rapport émancipateur à la nation, bien entendu.
Mais pour le coup, si on s'arrête à cette notion de frontière, à mon avis, on est dans un phénomène qui est régressif. Pas parce que la nation est régressive par nature, mais tout dépend ce qu'on en fait. À propos de Madagascar, pour le coup, et je confirme, j'ai un grand-oncle qui s'appelait Jean Lanlot, qui a été résistant. On a parlé, voilà, il fait tel et tel type d'exploit, s'échapper d'un train en partant de Rennes qui était à destination d'Allemagne, il a réussi à s'échapper, etc. Bon, donc, c'était un personnage pour moi positif. Et il était donc résistant entre Saint-Brieuc et Paimpol, voilà, d'où vient une partie de la famille. Et ce personnage, en fait, était lié au BCRA. Et puis, lorsqu'une partie, une tante de mon père est morte, puis j'ai reçu des papiers, puis etc., puis je me suis aperçu que ce personnage, après, eh bien, il avait participé à la répression de la révolte de Madagascar. Voilà. Eux-mêmes, effectivement. Donc, ça, effectivement, pour le coup, l'histoire nationale, là, du coup, elle est sacrément problématique. Je me souviens qu'en 91, il y avait le livre, Meurtre pour mémoire de Didier Denax, qui sortait sur 17 octobre 61. Et il y avait un colloque, qui était en fait un colloque plutôt militant à la Sorbonne, j'y suis allé, et j'ai découvert ça à ma grande stupéfaction. Alors que mon père m'avait toujours parlé du rapport à la guerre d'Algérie, mon grand-père faisait partie des gens qui avaient quitté la SFIO pour aller au PSA et au PSU, mais je n'avais jamais entendu parler de cette manifestation. Et j'y suis allé, j'ai été stupéfait de découvrir ça, et j'en ai parlé à des élèves en 91 et dans les années suivantes, et je rencontrais une ancienne élève il n'y a pas longtemps, elle se souvenait encore de ce que j'avais dit ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui effectivement était complètement effacé, oublié. Il y a maintenant un travail réel qui fait que lorsqu'on parle aux élèves, une partie d'entre eux en ont maintenant entendu parler, donc il ne s'est pas rien passé entre 91 et aujourd'hui. Et puis en même temps, évidemment, bah, les choses s'inscrivent et puis s'effacent. C'est un processus tout à fait, j'ai envie de dire, naturel. Voilà. On ne cesse de devoir retravailler avec le rapport au passé. Petite chose à propos rapidement à propos du bal tragique à Colombey, si j'ai montré à ces élèves cette caricature, c'est précisément pour éviter la question de Dieu, pas Dieu, etc. Et pour dire, voilà, la caricature, c'est la capacité nécessaire de ironiser par rapport justement au chef de l'État. Et du coup, dans la discussion, il en est ressorti une compréhension. C'est-à-dire que du coup, on a dit, ah mon monsieur, ah c'est ça, une caricature, ah bon, ah oui, bon, ah... et donc il y a quelque chose de positif qui s'est passé. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant il faut les montrer, ces caricatures, et qui sont plus facilement, qui sont oubliées, et en même temps qui sont moins directement conflictuelles que le rapport à la religion aujourd'hui, pour l'instant, d'enfants ou d'élèves venant des banlieues, et donc de la planète entière. J'ai pas d'avis tranché sur la question du voile. Pourquoi ma position, c'est plutôt de considérer que c'est bien que ce soit pas autorisé à l'école primaire et secondaire, parce que d'une part, c'est pas d'aujourd'hui. Personne n'aurait imaginé dans les années 50-60, 70, que venir avec un signe religieux explicite à l'école, personne n'aurait fait. Dans les règlements des établissements scolaires, la neutralité et le fait de ne pas avoir de signes ostentatoires religieux et politiques étaient tout à fait explicités. Simplement, c'était lors du règlement intérieur, et non pas de la loi. Il faut se rappeler que c'est une circulaire de Jean Zay, 1937, qui interdit les signes politiques et rappelle après que les signes religieux sont également interdits. Et pour le coup, si dans certains établissements, si on laisse librement le voile, pourquoi pas, ça ne me choque pas personnellement, même si ça pose des tas de problèmes. Mais en même temps, bah, il faut du coup aussi autoriser la kippa, il faut etc., etc., etc. Et vu le caractère explosif du rapport au conflit israélo-palestinien, faut dire les choses, ça ne peut que susciter des conflits violents à certains moments. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et d'autre part, je l'ai vu faire, puisque du coup, là, j'ai assisté, enfin, j'enseigne depuis 86, et donc là, je suis dans le même établissement depuis 2001. J'ai vu les quelques élèves que la loi a empêché de venir, c'est des élèves qui se sont ensuite voilés entièrement. Donc, qui, de toute façon, ne voulaient pas rester dans l'enseignement scolaire. Très clairement, je pourrais en donner un ou deux exemples. En revanche, celles qui viennent, et c'est la 90% ou 99%, elles acceptent tout à fait d'enlever en dehors, de l'enlever dans l'école et elles le remettent après. Et elles peuvent venir sans leur voile et accompagnées par leur mère qui porte le voile. Et ça ne pose pas de problème. Bon, voilà, je ne veux pas être trop long, je dis pas plus, je recède le micro à qui en a besoin.
Moi, je voulais préciser quand même que les masses laborieuses, donc, qui n'étaient pas ouvrières, parce qu'avant les usines, il y avait quand même beaucoup de travailleurs manuels, bon, et ces masses laborieuses ont quand même fait la Révolution française de 1789 en soutenant la bourgeoisie pour dessouder le pouvoir féodal et religieux. Donc la République de 1789, qui établit entre autres la laïcité, je dirais, c'est quand même un plus énorme pour les masses laborieuses. Et elles ont renouvelé d'ailleurs le même combat en 1930, derrière la bourgeoisie, puisque l'aristocratie était revenue au pouvoir après la chute de Napoléon, en 1815. Donc c'est les masses laborieuses, on peut dire qu'elles ont à leur actif aussi, et à leur combat, parce que la bourgeoisie était quand même minoritaire, ces valeurs républicaines, qui apporte un plus, je dirais, au combat ouvrier. Donc il ne faut pas nier, alors on a beaucoup nié dans le mouvement ouvrier, effectivement, ces notions de République, etc. Et la République, elle est aussi un combat progressiste par rapport, actuellement on a le Qatar, on a tout ça, bon, c'est quand même progressiste, quoi. Donc il ne faut pas nier ces valeurs-là. Et moi je voulais simplement montrer que, tout le monde est un peu d'accord là-dessus, que dissoudre, supprimer les communes et les remplacer par des fonctionnaires qui sont plus, ils sont plus élus ni rien, des grandes régions qui sont très loin de la population, qui sont d'ailleurs inter-européennes, hein, sur les frontières, et dissoudre la France, un pays laïque, c'est aussi contre l'émancipation, évidemment la classe ouvrière elle n'a pas ce combat-là à mener, c'est aussi contre l'émancipation des combats de la population et de la classe ouvrière. C'est ça que je voulais montrer, qu'il ne faut pas assimiler la République a des forces, évidemment les forces de droite elles utilisent bien sûr la République, etc., en la détournant bien sûr de ses objectifs, voilà. Mais je pense quand même que l'Europe nous dissout, c'est quand même un pouvoir du grand capital, en plus avec l'OTAN qui est au service des Américains, donc c'est pas une force qui est contre les Américains, c'est au service des Américains. Voilà. Et puis, à leur service, bien sûr, on bombarde la Libye, la Syrie, etc. Et on a des attentats en France, en plus, en conséquence.
Béatrice ? Moi, j'ai lu attentivement le petit papier, là, enfin, je l'ai tiré sur papier. Je suis une bonne élève, alors j'ai lu ça attentivement. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que, vous dites, faire collectivement le choix d'une nouvelle République, c'est prendre une décision fondamentale de rupture avec l'ordre existant. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'imaginer une nouvelle République dans le contexte des lois du marché et du capitalisme financier ?
Je vais essayer de répondre de façon pas trop longue aux deux interpellations. D'abord, je suis ici comme vous, je ne suis pas ici comme prof, j'utilise ma ressource de connaissance du passé pour la partager avec vous. Mais,
Moi, ce que vous en pensez.
Non, mais bien sûr. Juste par rapport à la question des masses laborieuses, 80, etc. D'accord, je suis, pour dire les choses, je suis totalement républicain. Je ne suis pas du tout anti-républicain. Je me sens pleinement La question, pour moi, ce n'est pas du tout ça que je disais. Mais d'une part, les masses laborieuses, ça ne s'appelait pas masse laborieuse en 89, c'était, on va dire, les artisans, les paysans de différentes catégories sociales. Elles ne sont pas, on peut le regretter, et c'est mon cas, je suis absolument non-croyant et athée. Je l'ai toujours été. Je suis rentré dans une église à Saint-Macaire-en-Mauge, près de Cholet, où il y a une autre partie de ma famille, et j'ai parlé de Pif Gadget au curé. Vous voyez, j'avais moins de 10 ans, donc voilà, c'est très ancré en moi. Je dis simplement que les masses laborieuses ou le peuple en 89, il n'est pas laïque du tout. Il n'est pas laïque du tout. Hélas, ou pas hélas, il y a une partie de déchristianisation et des gens qui, on va dire, autour de Paris ou dans certaines régions, sont iconoclastes et vont s'attaquer, ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, vont s'attaquer à certaines, aux églises, mais parce que les statues des rois de la Bible évoquent, les statues évoquent les rois. Voilà. Il y a la déchristianisation qui a lieu dans les zones d'église où on met, où on transforme les églises en temple de la raison. Mais il y a aussi toute une partie du peuple qui, lui, suit le fait que le pape rentre en conflit avec la Révolution. Une partie du... Ah ben, c'est pas seulement des Vendéens, c'est beaucoup, beaucoup de gens dans différentes régions de la France qui, du coup, n'acceptent pas que leur curé soit exclu. Ont du mal avec, alors il faudrait rentrer dans les détails, mais avec le fait que seuls les prêtres constitutionnels sont autorisés à dire la messe. Alors là, je ne parle pas de mon point de vue à moi, je répète, je suis totalement athée. Donc je suis ravi qu'il y ait eu la déchristianisation, les temples de la raison, je trouvais ça, personnellement, je trouve ça très bien. Je dis simplement que ce n'est pas du tout majoritaire. Et pour le coup, il ne faut pas oublier que ces gens-là sont vaincus. Ils sont vaincus par la Convention. Ils sont guillotinés. Et la grande cérémonie de juin 1994, dirigée par Robespierre, la fête de l'être suprême, dans cette grande cérémonie, il y a une statue de l'athéisme qui est détruite et brûlée. Vous voyez ? Alors, comme laïcité, on fait mieux. Vous voyez ? Alors, bien sûr que en même temps, il y a quelque chose qui est une forme de laïcisation et de sécularisation de l'État, et évidemment que personnellement à laquelle j'adhère complètement. C'est-à-dire qu'on remplace les paroisses par les communes, et puis on crée le département, et donc il y a quelque chose de l'État civil qui est mis en place. Et évidemment, personnellement, je trouve ça très très bien. Donc je rejette absolument pas ça, je répète, pour tout un tas de raisons. Je dis simplement que ce processus, il est beaucoup plus long que ça, et que si on prend pour le coup 1848, il y a toute une partie des courants socialistes qui se veulent chrétiens. On aime ou on n'aime pas ça, on est d'accord avec ça ou pas.
C'est la vie, c'est l'histoire.
Comment dire, Louise Michel, une des grandes héroïnes de la Commune, elle est croyante. Et elle était, bon, j'ai longtemps habité dans le 18e arrondissement, maintenant j'habite près de la place de la République. La fameuse église Saint-Bernard, je ne sais pas si vous vous rappelez quelque chose. Là,
sans papier.
Eh bien, c'est cette église dont Louise Michel fait un usage pour faire un club de la Révolution. mais pas le cul à dehors, elle trouve une sorte de modus vivendi. C'est-à-dire que dans la journée, le prêtre peut faire les cérémonies religieuses, les croyants peuvent venir prier, et le soir, c'est un club de la Révolution. Vous voyez ? Par contre, dans les écoles, elle met les religieuses dehors. Et elle fait, la commune, dans son arrondissement, fait effectivement, laïcise l'école et fait une séparation de l'Église et de l'État. Mais du coup, il y a des formes de conciliation avec le fait qu'un nombre de gens du peuple sont croyants. Et que c'est d'ailleurs une des graves raisons du conflit. Ça vous dit peut-être quelque chose ou pas, le massacre d'Aigues-Mortes en août 1893. Voilà, les Italiens à Aigues-Mortes, dans un conflit sur lequel, comment dire, l'historien dont je parlais tout à l'heure, Gérard Mariel, a écrit un livre très intéressant, donc, qui s'appelle « Le massacre des Italiens à Aigues-Mortes », donc c'est mi-août 1893, où, à partir de... Il y a la concurrence entre les ouvriers français, les trimardeurs, et puis les ouvriers italiens, qui, eux, leur venue est organisée, ils viennent par village et ils sont en meilleure santé, ils sont plus costauds que les, on est en pleine crise économique. Et les trimardeurs sont des gens qui se déplacent dans toute la Provence pour chercher du travail, ils sont plus faibles en fait physiquement. Et du coup, les ouvriers italiens qui ramassent le sel gagnent plus d'argent. Et puis évidemment, les patrons des différentes entreprises qui possèdent les salins, dans les salins déjà du Midi, et puis encore des salins autonomes, jouent là-dessus, sur cette concurrence, évidemment. Et du coup, ça provoque un conflit. Alors, le conflit démarre sur une histoire idiote qui est on attribue à des Italiens le fait d'avoir trempé leur chemise pleine de sel dans un seau que les ouvriers français auraient utilisé pour boire. Alors, on ne sait pas très bien si c'est le début de la bagarre la réelle, mais en tout cas, c'est ça qui est allégué. Et ça donne donc lieu à une bagarre. Les Italiens sont plus forts sur le moment. Donc, du coup, les trimardeurs vont aller chercher l'aide de la population des portes. Et puis, ça donne lieu à un massacre. Voilà, un massacre d'une dizaine ou d'une quinzaine de morts. Voilà, on a oublié ça. Et je reviens du coup à la question de la laïcité. Qu'est-ce que reprochent les ouvriers français? Ou plutôt, un des arguments utilisés, c'est que les Italiens, c'est pourtant nos voisins, c'est pourtant la proximité culturelle, vous voyez, c'est pas les musulmans. Ils habitent à quelques... leurs villages sont très près. Eh bien, ce sont des Christos. C'est-à-dire des gens à qui les ouvriers français reprochent d'obéir au curé. Et d'avoir des crucifiés, etc. Et puis je pourrais donner d'autres exemples comme ça. Donc en fait, cette question-là du rapport à la croyance, du rapport au curé, à la laïcité, elle ne cesse de traverser les mouvements ouvriers de façon conflictuelle. Donc elle doit être réfléchie. Et je répète, je suis moi-même totalement non-croyant et donc je pense que, à titre personnel, je pense que si on se débarrasse de la question de Dieu, on s'émancipe. C'est ma croyance personnelle et ma conviction personnelle. Maintenant, c'est de l'ordre d'une réflexion collective. Je donne un exemple à un élève qui est d'origine africaine, je ne sais plus de quel pays, peut-être Sénégal ou Malien. Je le vois, j'insiste pour qu'il vienne au cours réviser l'histoire. C'est une des classes où l'histoire est à la fin de la première. C'est un grand athée, très gentil, donc voilà, mais pas très bosseur, ça l'ennuie un peu l'histoire. Et puis je vois qu'il s'esquive, j'essaye de le rattraper dans la cour, parce que le bac approchait, puis hop, il fait le mur, il saute. Et puis où est-ce qu'il est allé? À la mosquée, parce qu'on a installé, ça c'est Sarkozy, a installé une mosquée dans un ancien garage. Voilà, c'était les gens qu'on avait, vous vous souvenez, Marine Le Pen qui disait, on est envahi, là, envahi par les gens qui prient dans la rue. Sur la pression de Sarkozy et du ministre de l'Intérieur de l'époque, on a interdit aux gens de prier dans la rue et on a ouvert une mosquée dans un ancien terrain militaire. J'ai assisté d'ailleurs à la façon dont la mosquée s'ouvrait, j'étais là ce jour-là, où donc ils finissaient de travailler ça. D'ailleurs, l'imam était dans sa Renault Espace en costume cravate, pendant que les gens fidèles étaient en train de nettoyer. C'était très intéressant de voir la répartition sociale du travail. Et puis les femmes, la salle de prière, non, c'était pas tout de suite, elle était encore pas préparée. Non, mais du coup, quand on réfléchit sur la religion, il faut travailler le rapport à la laïcité dans le rapport à l'émancipation sociale aussi. Ça. Donc cet élève se sauve, voilà. Je ne l'ai pas sanctionné, c'était pas. J'aurais pu faire un rapport et puis dire il est allé à la mosquée. Bon, je pense qu'il avait simplement envie de ne pas bosser non plus. Bon. Et cette année, je l'ai en terminale, on fait les cours d'enseignement moral et civique, et il y a la laïcité. Je l'ai fait travailler l'autre jour dessus, en leur demandant d'abord c'est quoi pour vous la laïcité, avant de leur donner une définition. Et ils n'osaient pas au début, ces ennuis, ils ont fini par mettre sur papier ce qu'ils en pensaient, et lui a écrit que la laïcité, c'était pas bien parce que ça empêchait chacun d'exercer librement sa religion. Là, c'est ça qu'il croyait, qu'il pensait. Puis du coup, j'ai repris l'exemple. J'ai pas fait une intervention autoritaire. J'ai posé la question collectivement. Et puis on a regardé, on a réfléchi. Bon, alors dans le lycée, effectivement, le voile c'est interdit. Mais alors à l'université, c'est interdit ou c'est pas interdit ? Est-ce que dans la rue, les femmes qui veulent porter le voile, c'est interdit ou c'est autorisé ? Et puis du coup, l'idée floue d'un côté pour certains ou certaines, la laïcité, c'est pas de religion du tout. Elle doit disparaître du paysage public. Et de l'autre, la laïcité, c'est pas bien parce qu'il faudrait que tout le monde puisse librement exercer sa religion, et en fait la laïcité c'est une oppression, eh bien ça s'est progressivement dissous. C'est-à-dire qu'on va arriver à une vraie discussion sur à quoi ça sert. Est-ce que ça doit s'exercer dans les lieux de travail ou pas? Et du coup, je veux essayer de les faire réfléchir sur aussi une dimension sociale, du coup, de la laïcité, de ce que c'est, de qui a droit à exercer librement sa croyance ou pas, et comment et pourquoi. Et que du coup, le fait de ne pas croire en Dieu, c'est aussi une croyance qui doit être protégé. Et du coup, c'est entre d'un côté dicter une définition, et de l'autre côté amener des élèves qui ont des points de vue très différents là-dessus. Il y a trois filles dans cette classe qui sont très copines. Il y en a une qui porte le voile, l'autre qui est égyptienne, copte d'origine, qui le porte pas, et puis une troisième qui est musulmane, qui ne le porte pas non plus. Elles sont très copines ensemble, et il est possible d'en discuter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on va discuter après des représentations de la femme, là, on voit que derrière les croyances religieuses ou pas, il y a la question de être une femme, c'est seulement une chose, ou alors c'est plusieurs choses, ou alors etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire travailler derrière le symbole. Pas trop. Dernière chose, pardon, j'ai pas répondu à la question, excusez-moi. Moi, je pense tout à fait qu'il est possible de refaire autrement une république. Et je rappelais que, pour le coup, au milieu du 19e siècle, le manuel du républicain de Renouvier, publié en 1848, il y a le grand historien Maurice Agulon qui l'avait édité avec une préface. Dans ce manuel du républicain, qui est sur le mode un instituteur qui pose des questions à un élève et l'élève répond, et bien précisément, alors j'oublie la question précisément, mais il y a un rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, la République, telle qu'elle est conçue par certains, pas par d'autres, la République, c'est la capacité de maîtriser le rapport à l'argent public. Effectivement. Donc c'est pour ça que pour moi, l'Europe, le printemps des peuples, le déclenchement de la révolution républicaine à Paris, incite des gens à Rome, à Prague, à Vienne, à Berlin, à Francfort, à se révolter et à vouloir faire des républiques. Voilà. Or, il se trouve que ces gens-là ont perdu, c'est-à-dire que les États vainqueurs et les gens vainqueurs, ça a été les monarchies. Mais ce n'est pas pour ça qu'une Europe conçue comme république ou avec des pensées républicaines n'est pas possible. Il y a des gens en Angleterre qui veulent la République. Vous voyez ? C'est-à-dire que je suis bien d'accord que la République, ça peut être émancipateur, comme ça peut ne pas l'être, et que c'est un travail à faire à échelle européenne de penser la République comme émancipation. Et que l'Europe, pour moi, elle est ni par nature oppressive, ni libératrice. C'est un enjeu. Comme il est un enjeu que la République en France soit conservatrice ou soit émancipatrice. On n'est pas forcé de rester sur le modèle gaullien. C'est à nous de faire le travail. Vraiment dit, il n'y a pas de modèle préconçu, c'est à nous de le faire.
Oui, bien sûr.
Oui, sur la religion. Moi, je suis athée. Je crois en rien du tout. Et je dis, la laïcité, c'est la loi 1905. Mais je m'en fous, je réchauffe. La laïcité, c'est la loi de 1905, toute la loi et rien que la loi. Alors, c'est Sarkozy qui a dit le curé est plus important que l'instituteur. Bon. Moi, j'ai connu les curés qui étaient marxistes. Et on a milité ensemble. Il y a même quelques évêques qui sont progressistes. Donc, il ne faut pas mettre les gens comme ça dans des cases. Quoi. Alors après, moi, je respecte toutes les religions, pas de problème. les femmes qui portent le voile. Alors bon, attends, on est un certain nombre à avoir connu, dans les années 50 et 60, en France, les femmes, elles avaient un foulard pour rentrer dans une église. Et les bonhommes, il fallait qu'ils posent leur casquette. Alors, c'est un peu... Alors, je me suis baigné, elle se baignait pas, elle était sur la plage, l'été dernier, avec une femme musulmane qui avait, comment s'appelle ça, la grand bazar. Son mari est en maillot de bain, les gamins étaient en maillot de bain, le burkini, et elle, elle est en burkini. Et alors, ça m'a pas gêné. Le seul problème, c'est que si elle va se baigner, et comme ça, avec l'eau, ça pèse lourd, si elle se noie, c'est son problème. Quoi. Je veux dire, on aurait peut-être été les chercher quand même, c'est pas la question. Mais, non, mais, moi, ça me dérange pas, ça. Ceci dit, à l'école, dans les services publics, etc., pas plus la grosse croix de Jésus ou
Paul, elle fout la rouge.
C'est la religion, c'est à la maison, ou à l'église, ou au temple, ou à la synagogue, enfin bon, bref. Mais pas. Alors, Le Pen, par exemple, elle dit « Ah, il y a des musulmans à Lyon qui font la prière dans la rue. » Eh bien, je vous signale qu'à Commentry, le curé, pour les rameaux l'année dernière, il a fait une prière dans la rue. C'est-à-dire entre l'église et le théâtre. Eh oui. Alors, si ça avait été des musulmans qui avaient fait ça, eh ben, on aurait écouté quelque chose.
Il y a tous les sens. De
la même manière, ils nous font jouer le Divin Enfant pour Noël. Je suis intervenu auprès du maire. J'ai dit, c'est pas normal. Parce que moi, le Divin Enfant, il s'écoute à l'église, il s'écoute dans la sphère privée, à la maison. S'il y en a un qui a un CD sur le Divin Enfant, pourquoi pas, c'est son problème. Mais moi, ça me dérange quand je sors de chez le boulanger et que j'écoute le Divin Enfant. Il y a d'autres chants de Noël, quoi, je veux dire. Il y a mon beau sapin, puis il y en a d'autres. Mais bon, voilà. Et donc, toutes ces... Les religions, en fin de compte, ça a toujours été prétexte à faire des guerres. Soit à une époque pour conquérir des territoires, et aujourd'hui, c'est pour faire la guerre par rapport au pétrole et au gaz. Et c'est tout. C'est pas des guerres de religion, c'est des guerres d'intérêts capitalistes par rapport au lobby du gaz, du pétrole, etc. Et c'est le gros problème du Moyen-Orient aujourd'hui, hein. C'est ça. Hein. S'il n'y avait pas de pétrole, il n'y aurait pas de guerre.
Hein. Uranium.
Quelqu'un va intervenir après.
C'est pas facile, après. Bon, alors moi, c'est la première fois que je viens, ça m'a beaucoup intéressé, mais je dois vous dire que ça évoque pour moi quelque chose. En 1950, tout de suite après la guerre, André Philippe nous faisait des cours de droit. Et notamment, il nous parlait de la démocratie, car il a d'ailleurs fait un livre sur la démocratie, bien sûr, et il nous disait « Demos kratei, c'est le peuple qui gouverne ». Mais ajoutait-il, le malheur, c'est que le peuple ne cratait jamais. Car c'est pas lui. Bon, très bien. Moyennant quoi, il fallait faire des recherches pour voir comment faire en sorte que la démocratie soit la vraie démocratie. Et alors, je suis frappé par le fait que toute une génération est passée.
Les cheveux blancs, hein.
Sont là, hein, et on n'est pas plus avancé. Et alors, voilà. Donc, comment se fait-il qu'on n'a pas pu avancer et comment maintenant nos petits-enfants pourront-ils avancer ?
Je ne sais pas, Jim.
Quelqu'un d'autre veut poser une question, participer au débat ? Oui ?
Bonjour. Comme monsieur, d'abord, il faut que je vienne ici. Pour moi, la laïcité, je considère la laïcité sur le long terme historique. L'origine de la laïcité, c'est les religieux. Hein, c'est le terme laïque provient de la religion qui séparait ce qui était du ressort de Dieu et de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Effectivement, c'était une première idée de séparation, de ne pas mélanger ce qui est de l'ordre public et de l'ordre de la religion. Après, ça s'est historiquement cristallisé, et effectivement, on arrive à considérer, à séparer complètement ce qui est de l'ordre du public et de l'ordre des croyances privées. Et dans la République, mes souvenirs sont exacts, la République ne reconnaît aucune communauté, qu'elle soit religieuse, ethnique, de genre, de sexe, etc. Donc il faut bien, de mon point de vue, j'arrive à bien séparer tout ça. Et pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, sur l'être suprême avec Robespierre, au moment de la Révolution, et il faut noter quand même qu'il y a une très grande dépravation de la noblesse. Les mœurs de toute une grande partie de la noblesse, la grande noblesse, la cour, etc., c'est extrêmement dépravé. Et quand Robespierre institue le culte de l'être suprême, c'est pour ne pas abandonner, pour qu'il y ait dans le peuple de l'époque des références dites morales, si vous voulez. Vous voyez, je pense que c'est lié à... C'est une réponse à des problèmes de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
C'est intéressant.
Bien.
Non.
Moi, je me pose la question si tout ce débat qu'il y a eu sur le voile à l'école, comme on a bien vu les rythmes scolaires, hein, maintenant, c'est plus l'État qui paye l'école, c'est les municipalités. Quand les municipalités sont pauvres, comment ils vont faire des activités scolaires? Ils n'ont rien. Et dans des mégapoles comme Lyon, Marseille, Paris, il y a de l'argent en pagaille. Donc, est-ce que ce n'était pas un but aussi pour détourner le fait qu'on est en train de casser l'école? Parce que c'est vrai que je suis désolé. Quand on apprend que Hitler, c'est pareil que Staline, enfin que l'URSS, c'est pareil que le nazisme, c'est pas tout à fait pareil. Je suis désolé. Bon, c'est quand même un peu différent. Mais je me demande si ça n'a pas été avancé, ce niveau thème. Et on n'a parlé que de ça pour mieux cacher le fait que l'État... Comme la sécurité sociale. On n'a plus de sécurité sociale maintenant si on n'a pas une mutuelle. Hein. Maintenant, les retraites, si on ne prend pas une mutuelle, une retraite privée, on n'aura pas de retraite. Et on va tout au système américain. Donc l'école va, bien sûr, elle est complètement déficitaire. On ne dit pas qu'elle est déficitaire, mais elle est aussi déficitaire que les pompiers ou que la police. Bon, l'école, c'est un marché très important que les forces d'argent veulent récupérer. Alors je me demande si le voile... Ça n'a pas été lancé pour, parce que ça ne posait pas tant de problèmes que ça, pour détourner les vrais problèmes. C'est ce qu'ils font en permanence, parce qu'ils veulent se récupérer l'école. Alors, en plus, il n'y a plus de surveillants dans les lycées, les collèges, la drogue rentre. Dans les écoles privées, il y a des surveillants. Hein. Donc, il y a des gens qui sont communistes ou laïcs, qui mettent leurs gosses à l'école privée, et je les comprends très bien, au moins, ils ne sont pas dans la rue, ils ne sont pas dans la drogue, ils sont dans la violence. Oh.
Oui, Alain nous disait que la politique, c'était surtout dehors que ça se passait pour défendre les programmes des candidats, et alors je suis tout à fait d'accord avec. Mais quand même, puisqu'on a des propositions sur une nouvelle République,
ouais.
Sans commenter les propositions de tel ou tel candidat, il serait intéressant de compléter la question que posait M. Roy. Quel est le regard de l'historien par rapport à la méthode de désignation, mais par rapport à la représentativité des citoyens dans la nouvelle République. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bonne question. Je note. Okay. Alors, juste. Pardon, merci. Pour ce qui est. Alors, moi, ça me gêne un peu de réduire la question de la religion à la question d'argent. Pourquoi? Je suis pas du tout favorable à l'idée de l'histoire complot, c'est-à-dire que c'est exprès pour. En revanche, c'est que ce soit un effet de l'économie, oui, je pense que oui. Mais on le constate déjà au XIXe siècle. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir d'une libération possible, ou alors que cette libération-émancipation se réduit à l'idée d'un profit privé, eh bien, on a tendance à déplacer l'espoir concret dans le présent vers autre chose. C'est pas par hasard si une amie Michel Yosarsen va travailler là-dessus, sur les spirites et ce genre de choses. C'est pas par hasard si on constate que ça se développe par exemple sous le Second Empire. La liberté politique est fermée, l'espoir d'émancipation se réduit à. Et c'est pas par hasard si à ce moment-là d'ailleurs qu'on développe les sociétés par action, etc. C'est-à-dire que l'espoir ou l'avenir, c'est essentiellement l'avenir de l'enrichissement personnel. Et c'est pas par hasard si c'est à ce moment-là que du coup un certain nombre d'idées de liberté vont se réfugier du côté des formes de croyance. Pas parce que c'est un complot, pas parce que c'est arrangé exprès pour, c'est que simplement nous sommes tous, je pense que nous sommes tous des gens qui sommes des croyants, mais au sens le plus vrai, le plus large. C'est-à-dire que croire, avant de croire en un dieu, c'est croire simplement que l'avenir est possible. C'est espérer quelque chose, c'est une forme de croyance élémentaire, mais qui paraît nécessaire. Enfin, j'ai envie de dire, lorsque des fois des élèves m'ont dit, monsieur, mais en fait, alors vous croyez en rien ? Ah mais c'est terrible, mais vous. Vous ne croyez pas que c'est Dieu qui a fait le monde, mais c'est angoissant. Enfin, certains, je dis, si, j'ai une forme de croyance, moi je crois en l'humanité. Ben oui. Autrement dit, l'humanité, c'est nous tous, avec nos défauts, nos intérêts, nos conflits, etc. Et puis en même temps, on est capable de faire quelque chose de mieux que simplement se battre pour des regatons. Voilà. On est capable de faire quelque chose. C'est une forme de croyance. J'y crois. Je pourrais très bien ne pas y croire. Je ne suis pas du tout cynique. Donc si on n'est pas cynique, on peut faire à partir de ces formes de croyance quelque chose d'intéressant. Enfin, me semble-t-il, là, c'est ma conviction personnelle. Et il me semble qu'une partie de la question du coup de la crispation religieuse vient aussi de là. On a vu, y compris et c'est terrible d'ailleurs, des adolescents convertis à aller combattre avec Daesh, c'est. Je ne pense pas que ça relève simplement du complot. Alors, il y a bien sûr des propagandes efficaces sur Internet. Vous avez tous vu ça comme moi. Mais c'est aussi parce qu'il y a une croyance. Perte. Il y a une perte de croyance dans un avenir possible. Et justement, effectivement, dans un avenir démocratique. Et que du coup, les religions remplissent un vide. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Les parents font pas. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de parents complètement désespéré et ne sachant pas quoi faire. Et je me souviens très bien, alors pour le coup, d'une élève que j'avais, dont j'avais expliqué que j'étais personnellement contre le voile, considérant que c'était une forme d'aliénation. Mais on en discutait comme ça, pas dans le cours. Et puis il m'a expliqué qu'elle le portait contre ses parents. Elle était d'origine algérienne, contre ses parents qui étaient laïcs. Et c'était en fait tout simplement une sorte de révolte adolescente contre son père. Et elle m'a même demandé de l'aider à se justifier par rapport au chef d'établissement qui voulait la sanctionner. Et elle voulait justifier qu'elle portait le voile en dehors du lycée, pas dans le lycée, parce qu'elle voulait défendre sa revendication de femme. Alors,
pourquoi pas.
J'avais par devers moi l'idée que c'était très confus dans sa tête, mais tout en lui disant et lui expliquant pourquoi, de mon point de vue à moi, c'était quelque chose qui me semblait être pas positif. En même temps, je l'ai aidé à réfléchir, à écrire une lettre pour se défendre auprès de la chef d'établissement, en gros parce qu'elle avait porté le voile dans un déplacement, non pas dans un musée, mais en prenant le métro, quelque chose comme ça, entre le lycée. Voilà. Donc la chef d'établissement voulait la sanctionner pour ça. Ce qui, là, pour le coup, me paraît maladroit. Et donc, on a discuté et réfléchi les arguments qu'elle voulait employer. Finalement, elle a pas fait la lettre. Mais du coup, j'ai trouvé ça plus pertinent de l'aider à voir comment elle pouvait argumenter tout en lui disant pourquoi moi, je n'étais pas d'accord, plutôt que à la fois où de la dénoncer entre guillemets et de la sanctionner, ou plutôt que de la laisser se débrouiller toute seule. Et que du coup, c'était bien. Et du coup, je devenais quelqu'un, un adulte de référence, comme on dit, avec lequel il était possible de réfléchir, et du coup, qui n'est pas un ennemi avec lequel on pouvait être en désaccord, et en même temps, il était possible de construire quelque chose en commun. Et il me semble que beaucoup d'adolescents, de jeunes d'une vingtaine d'années, qui se réfugient dans la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, j'ai vu aussi un retour à des formes de religions qui ne sont pas du tout musulmanes, qui sont les cultes évangéliques, qui sont, comment dire, j'ai un étudiant qui est, ses copains m'ont dit, bah, en fait, il est témoin de Jéhovah, bon, il s'intéressait beaucoup aux communes de Paris, ouais. Témoin de Jéhovah, bon, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui pour moi est un symptôme d'une perte de confiance dans la communauté. Et que... il y a bien sûr des instrumentalisations, il y a bien sûr des intérêts, je suis tout à fait d'accord. Mais s'il n'y avait pas cette perte de croyance dans le présent, dans les possibilités du présent, beaucoup moins de gens et de jeunes iraient se retourner vers ça. Et que pour le coup, pour rebondir sur la question, et du coup, c'est bien pour moi dans la possibilité d'élaborer un autre rapport des citoyens à la vie politique, c'est-à-dire de dire que c'est possible et qu'on peut utiliser des formes du passé, d'ailleurs, pour penser autrement, que réside un renouveau possible de la démocratie. Les mêmes élèves qui m'ont dit que oui, on voit la démocratie bof, etc., les mêmes m'ont dit « Ah, vous avez vu, vous avez regardé le débat, monsieur, le premier. Ah, c'était vachement intéressant. » Il y en a un qui me dit, mais et pourquoi est-ce qu'il veut une 6e République Mélenchon? Et du coup, mon cours sur, pour la fin d'année, pour le bac, sur, bon, bah, il faut apprendre la 5e République, et puis, etc., etc., donc qui peut les ennuyer parce que c'est du passé. Là, brutalement, ça devenait du présent. Et on va travailler là-dessus. Et du coup, votre invitation là, de comment est-ce qu'on pourrait faire une nouvelle République, j'espère bien que vous allez poursuivre la discussion et que vous allez élaborer un projet. Ça m'a donné l'idée de faire, je n'avais pas pensé de faire avec les élèves, c'est-à-dire que je vais reprendre la même idée dans le lycée, avec différentes classes, et je veux leur dire, voilà, vous auriez à faire une nouvelle
République. Ah ben ça, c'est une bonne idée.
Comment vous la feriez? Et que c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ose reprendre, nous, la question, alors je trouve très intéressant des choses dans la France insoumise, bien sûr, par exemple, mais au lieu simplement de confier la question à quelqu'un qui s'en porte qui s'en fait le porte-voix, évidemment qu'il y a besoin de porte-voix pour des tas de raisons compréhensibles, mais si on arrive à se réapproprier collectivement ce genre de questions, c'est là où un avenir plus concret est possible. Et c'est la même chose pour le rapport au capitalisme. Effectivement, les choses ont peu bougé, si peu bougé que vous parliez du statut qui est lu tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. À ce point que c'est dans un discours de novembre 93 que, juste après ce qui est arrivé à Carmo, et le fait qu'un ouvrier qui s'appelait Calvignac ait été élu maire et dû renoncer à son poste de maire parce que le propriétaire, le marquis de Solage, j'ai oublié le nom précis, le sanctionne parce qu'il s'absente de la mine pour aller à la mairie. Et du coup, Jaurès, s'adressant aux républicains de l'époque, leur dit « Mais vous, les républicains, vous avez fait en sorte que les citoyens soient souffrants, mais en même temps, dans la vie économique, c'est un cerf, c'est-à-dire il est dans l'état de servage. » On est encore là.
Non, encore là. Ouais.
Et si on en est encore là, c'est bien qu'on n'ose pas dire, par exemple, quelque chose de très simple, qui pour moi, c'est ça aussi une républicanisation possible à d'autres échelles. Qu'est-ce qu'on attend pour émettre l'idée qu'un conseil d'administration, c'est totalement antidémocratique? Voilà. Donc, il faut républicaniser, si j'ose dire, démocratiser les conseils d'administration. Et que c'est possible, si on dit ça, ça fait peut-être moins peur que de dire on va installer dictature de prolétariat et voilà, etc., etc. C'est-à-dire que le fait de dire que les procédures, même dans les entreprises, ne sont pas démocratiques et qu'il faut qu'elles le soient, donc que le rapport à l'argent, que le rapport au bien commun, nous le réapproprions aussi de cette façon-là, c'est-à-dire en modifiant les règles. Ça me paraît plus convaincant que simplement ce que j'y suis allé. Non, je suis à côté, je suis allé nombreuses fois, nuit debout. Alors il disait, voilà, il y a des gens qui disaient, voilà, on va dans les entreprises, on pourrait démocratiser, mais alors leur idée de démocratiser, c'était de donner mieux la parole. Mais en oubliant que la question fondamentale, c'était qui gère le capital. C'est ça la question fondamentale. Et alors là, on en est toujours à faire comme si le capital, il était normal qu'il soit géré de façon non démocratique. Et même, je ne suis pas contre ce que dit Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit qu'il faudrait faire une loi de séparation de la République et de l'argent, un peu sur le modèle de la loi de séparation de l'Église et de l'État. D'accord ?
Ouais, mais bon.
Pour séparer les banques d'affaires. D'accord ? Mais si on se contente de séparer, ça veut dire que, eh bien, si l'argent, c'est comme la religion, c'est une affaire privée. Mais si c'est une affaire privée, les gens qui gèrent cet argent pour leur profit personnel, ils continueront de le gérer pour leur profit personnel.
Tout à fait.
Donc la question, elle est bien, comment est-ce qu'on démocratise le rapport à l'argent, c'est-à-dire au bien commun, c'est-à-dire au profit, c'est-à-dire etc. Et pas simplement en disant on les prend. C'est-à-dire, il faut poser cette question-là. Pourquoi est-ce que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, dans un conseil d'administration, il n'y a pas une voix, un vote, une action, un vote. Et non, au lieu qu'il y a je possède tant de milliers, centaines, dizaines de milliers d'actions, donc j'emporte le vote. Et je finirai avec ça, si on ramène ça à des choses d'escalier, des choses très concrètes, copropriété par exemple, j'ai été copropriétaire, je ne le suis plus, eh bien ça m'avait frappé que dans une discussion d'assemblée de copropriétaires, eh bien pour discuter de l'aménagement de l'escalier, etc., etc., non, il y avait machin qui possédait 3 parts, et puis plus machin qui possédait 4 parts, et que du coup, les remarques que nous qui possédions qu'une seule part, eh bien, démocratiquement, on avait dû s'incliner parce que machin, il possédait 4 parts, et l'autre possédait 3, donc ça faisait 7, et nous, on avait que 4 parts à 4.
Couper la tête.
Donc, ce dont nous ne voulions pas dans la répartition des dépenses, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que toutes les dépenses soient d'un seul coup, on voulait qu'elles soient étalées, eh bien, ça nous a été imposé. Donc c'est exactement la même question, c'est le rapport à la propriété. Mais là, c'est pas à l'échelle internationale, c'est dans une cage d'escalier. Dans
la
propriété, je pense que si ces questions-là, autrement dit, le rapport à l'égalité, et il y a un philosophe très intéressant que j'aime beaucoup, Étienne Malibar, qui a été au PC, alors je ne sais pas s'il y a encore, mais qui a formulé ça en disant, finalement, dans toutes les déclarations des droits de l'homme, on peut résumer les choses en disant qu'il y a une proposition fondamentale qui est l'égalité. Et que l'égalité et la liberté, l'égalité, ça fonctionne ensemble et c'est ça le noyau concret que l'on doit défendre, que l'on doit mettre en pratique. Eh bien, si l'égalité est au cœur d'un projet de République, ça change les choses. Ou ça les change dans la façon déjà de concevoir le rapport à la République, semble-t-il.
Ah bien.
Bien, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je crois qu'il y a plus de 20 heures.
Ah, déjà.
Merci Olivier pour ces explications.
Ouais.
Je voulais vous dire qu'il se fera un plaisir de dédicacer ce livre, La République dans tous ses états, livre auquel il a participé. Et puis nous avons passé une bonne soirée. Je crois que nous sommes en plein dans le titre de notre mot d'ordre. Ce soir, c'était l'atelier, vraiment une association d'éducation populaire. Nous avons tous partagé et c'était très intéressant. Merci encore. Contrairement aux autres soirées, nous ne rangeons pas les chaises. On ne les implique pas, pardon. On peut participer à les ranger, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en épi. Je rappellerai aussi que si vous avez un petit billet ou quelque chose comme ça, et bien vous pouvez le laisser dans la boîte. Ou un gros billet, oui, Alain me suggère. Voilà.
Il y a des billets de 50 euros, il a dit.
Ouais,
des
billets de 50 euros, voilà, c'est ça. Si on peut faire un mètre, ça sera pas mal.
Jusqu'à la Tour Eiffel, la Tour Eiffel.